L'invité de France Inter jusqu'à 9h est historien. Il publie chez Gallimard « Peuple souverain », sous-titre de la révolution populaire à la radicalité populiste. Bonjour Pascal Horry.
Bonjour Nicolas Demorand.
C'est un livre, Pascal Horry, très éclairant sur la politique contemporaine aussi, sur l'histoire bien entendu, mais sur ce que nous vivons également. On va y venir en détail. Mais pour commencer, dites-nous si nous sommes aujourd'hui entrés au sens strict dans un moment populiste.
Ça fait déjà un bon bout de temps, il faudrait être aveugle pour ne pas le reconnaître.
Combien de temps ?
Bah disons que le populisme, au sens où on l'entend ce matin, et ce n'est pas une définition floue, il a 150 ans. Et d'ailleurs, la France, je précise que mon livre est loin d'être centré sur la France, mais la France a été un berceau avec le boulangisme. Parce que quand vous regardez le général Boulanger, quelle est la formule ? Appel au peuple, critique des élites, convergence des deux extrêmes, les monarchistes et l'extrême gauche. La majorité des gens qui étaient autour de Boulanger, c'était des insoumis de l'époque, c'était les blanquistes. Les blanquistes, l'héritier de Blanqui était boulangiste, ce que évidemment on ne dit pas souvent. Donc on a déjà tous les éléments qu'on connaît aujourd'hui. Mais si on remonte au déluge, et il faut parfois remonter au déluge, hein, parce que quand on parle de l'iconoclasme, il faut remonter au déluge, ça a 2 ou 3 000 ans, l'iconoclasme qui assassine des journalistes en 2015. Eh bien si on remonte au déluge, c'est la démocratie autoritaire, et là vous pouvez facilement remonter à toutes les expériences des tyrans grecs. La démocratie est tout sauf naturellement libérale.
Hein. Alors je précise ma question, du coup, qu'est-ce qui fait que le moment dans lequel nous sommes a une spécificité par rapport à ce que vous venez de dire, à savoir le déluge boulangiste.
Nous commémorons le centenaire de la Révolution d'octobre, qui a été une apothéose du radicalisme de gauche, de la gauche radicale. L'échec de l'Union soviétique, suivi par d'autres échecs, est un terrain ouvert pour une alternative qui est populiste. D'où d'ailleurs des transferts parfois d'électorat, voire de dirigeants ou de militants, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il y a eu clairement, le XXe siècle, c'est beaucoup de choses, c'est la décolonisation, mais c'est d'abord le lieu de l'échec de la gauche radicale. Depuis la chute du mur de Berlin, le nationalisme et le populisme, c'est une solution, c'est une ressource.
Radicalisme, populisme, quelle différence peut-on faire rapidement entre ces deux concepts ?
Le populisme, c'est un renouvellement, une modernisation réussie, même si elle est catastrophique au bout de quelques années, de la pensée de droite dans un style de gauche. C'est-à-dire qu'on prend dans le stock de la gauche, effectivement, la souveraineté populaire, la critique des élites, et même le national dont il ne faut pas oublier qu'il vient de la gauche. Et donc c'est parfait pour repartir sur de nouvelles bases. C'est pour ça que je conclue mon livre en signalant que de toutes les façons, les historiens, ils se décarcassent inutilement, parce qu'une fois qu'on aura dit ça, les sociétés sont dans le contemporain pour leur dire « Mais regardez le résultat catastrophique du populisme mussolinien, hitlérien, regardez d'ailleurs aussi le résultat catastrophique du léninisme. » Il n'empêche que les populations d'aujourd'hui, elles résonnent comme les gens de la Ligue du Nord. Le catalanisme ou la Ligue du Nord, c'est tout à fait dans cette logique-là. C'est un nationalisme de riches. Dans une société de plus en plus individualiste, les Tchèques se séparent bien volontiers des Slovaques, les gens de la Ligue du Nord, les Flamands, les Catalans. On est vraiment dans le 21e siècle. Et ça nourrit le populisme.
Mais j'ai du mal à mettre derrière le même mot ce que vous avez dit, Mussolini, le nazisme, la Catalogne. C'est pas le même populisme.
Si, parce que le fascisme est une version radicale, c'est ma thèse. Après, bon, on me lira, puis on pourra ne pas être d'accord. C'est la version, alors là, effectivement, radicale du populisme. C'est un populisme qui va jusqu'au bout et qui a reçu d'ailleurs des leçons de Lénine, et en particulier d'un régime totalitaire.
Et vous faites de Lénine et de Trump les deux faces de la même pièce. Est-ce que là vous vous faites plaisir comme historien, Pascal Horry, ou il y a quelque chose de fondé ?
C'est peut-être une pièce de mauvaise monnaie. Mais moi j'ai été frappé par un hasard de calendrier, mais ce n'est pas qu'un hasard de calendrier. Le 8 novembre, c'est la date de Trump. Mais c'est aussi le moment où Lénine, devant le congrès des soviets, prend solennellement le pouvoir avec le décalage de calendrier. C'est assez frappant. C'est-à-dire que 99 ans après, l'échec des solutions de la gauche radicale nourrit une solution populiste qui est d'ailleurs, attention, ne mélangeons pas tout, modérée dans le cas de Trump. Parce que si Trump gagne, ce n'est pas simplement parce qu'il est un populiste façon tiers parti, c'est parce qu'il est soutenu par le Parti Républicain. Ce qui est quand même un grand parti qui n'est pas que populiste, qui est un parti conservateur, libéral sur le plan économique. Donc il faut les deux. Mais c'est une variété atténuée d'une grande famille populiste dont Mussolini, qui venait de l'extrême gauche, faut quand même pas l'oublier, est un bel exemple.
Qui est dans la famille populiste en France aujourd'hui, quand on regarde l'échiquier politique, Pascal Horry ?
Non, clairement, le Front National, pour moi, il n'y a pas... La notion de populisme de gauche peut être utilisée, mais c'est pas fonctionnel. Il y a une logique de la gauche radical. Quand je lis que le grand texte de Jean-Luc Mélenchon a été « qu'ils s'en aillent tous », évidemment, je suis dans une perspective où je vois bien que la gauche radicale bordaille un peu la droite radicale. Mais il n'empêche qu'en termes de valeurs et en termes d'alliance surtout, regardez Mussolini, je vais être un peu provocateur, c'était le Mélenchon de 1914 en Italie. C'était le leader de l'aile la plus à gauche du socialisme, donc quasiment du communisme qui n'était pas encore séparé du socialisme. Sauf que, une fois qu'on a dit ça, on a dit que la moitié de la vérité historique.
Oui, l'autre moitié, préciser,
c'est, voilà, c'est qu'en 1919, quand il crée les faisceaux de combat, il est clairement à l'extrême droite, Mussolini. C'est-à-dire qu'il sert de nervi à un capitalisme aux abois. Donc c'est pour ça que je ne mélange pas tout. Mais on fait de bons populistes d'extrême droite avec des gens qui ont une belle expérience d'extrême gauche.
Mais
c'est pas Alain Soral ou c'est pas Florian Philippot ou le maire d'Ayange qui me démentiront.
Mais quel rapport entre Jean-Luc Mélenchon et même le premier Mussolini ? Je ne comprends pas.
Alors, je veux dire qu'on fait de grands leaders d'extrême droite avec, entre autres, pas automatiquement, c'est pas du tout le cas d'Hitler, hein, mais je répète que ce sont des populistes radicaux, Hitler et Mussolini. On fait souvent d'excellents leaders d'extrême droite avec des gens qui ont une expérience d'extrême gauche. Bon, Doriot est un bel exemple. Hein. Doriot a échoué, parce que, bien entendu, ces expériences finissent par échouer. Hein. Les histoires radicales finissent mal en général, hein. Mais ça ne signifie strictement rien pour nos contemporains de ce matin, qui ont d'autres intérêts. Parmi les électeurs du Front National, vous savez fort bien qu'il y a des descendants d'immigrés. Mais d'immigrés italiens ou espagnols qui ne vont pas faire le transfert sur aujourd'hui. C'est ça la catastrophe dont je parle dans mon livre. C'est que bien entendu, on enseigne l'histoire, mais l'histoire n'enseigne rien.
Je comprends toujours pas pourquoi vous comparez Jean-Luc Mélenchon et le premier Mussolini.
Mais je ne compare pas.
Vous dites il y a.
Non, je dis qu'en 1900.
Alors, il y a une coïncidence, disons.
Nicolas
et cette
Morant,
coïncidence, elle est à l'extrême gauche.
On va être un peu, soyons un peu lourds à ce moment-là. En 1914.
Mais non, mais la pédagogie, c'est la répétition. Donc allez-y.
En 1914, Benito Mussolini, qui a un prénom gauchiste, hein, je rappelle Benito, mais enfin c'est une autre histoire, est clairement le leader de la gauche radicale. Ça ne suffit pas à en faire un futur fasciste. Mais il se trouve que, passé par un épisode essentiel qui s'appelle la guerre, alors que je sache, il y a beaucoup de pays en guerre aujourd'hui à travers le monde. Vous savez, le grand parti populiste mondial, il n'est pas en Europe, il est au pouvoir en Inde, c'est le BJP. Donc, il faut être mondialiste. Hein. Pendant un certain temps, les Français étaient tellement auto-centrés qu'ils ne voyaient que le Front National. Aujourd'hui, l'équivalent du Front National est au pouvoir, est dans la majorité gouvernementale au Danemark et en Finlande. Donc, il faut se réveiller. C'est un phénomène mondial. Donc, je dis simplement qu'on peut avoir été un Jean-Luc Mélenchon et devenir un Mussolini. Mais ce n'est pas du tout fatal. La plupart des leaders blanquistes, par exemple, sont restés des leaders d'extrême gauche, ils ont lutté contre le boulangisme. Mais je suis en train de
comparaison n'est pas raison.
Oui, mais
donc,
le génie,
lourd, comme dirait
Chateaubriand, le génie du populisme, c'est de récupérer les déçus des deux extrêmes. Et déjà Boulanger et Marine Le Pen, bon maintenant ça branle dans le manche. Et évidemment Alternative pour l'Allemagne, etc.
Bon, j'attends avec impatience, Pascal Horry, le débat avec les auditeurs de France Inter. Intervenez au 01 45 24 7000.